www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Bienvenue Valérie, tu es parmi nous aujourd'hui parce que nous allons parler écriture inclusive. Et pour arriver à parler d'écriture inclusive, nous allons en passer par décadrer. Hein, décadrer, qu'est-ce qui est noté sur le... On va immédiatement donner le site internet de décadrer, il est là, bam. Donc www.décadrer.com. Décadrer, un autre regard sur l'actualité. Donc décadrer, c'est une association qui s'occupe également de, comment dire, rectifier des errements sémantiques, pourrait-on dire, de faire attention à ce que cette bagarre, hein, vraiment des mots, eh bien, est court et qu'elle ne soit pas, qu'on sorte de ce déséquilibre patent qui règne actuellement et qui concerne, eh bien, voilà, les filles, les femmes qui sont souvent au travers des mots disqualifiés pour le moins. Dans leur être, dans leurs attitudes. Et voilà, alors un des travaux que vous faites, c'est de vous adresser aux mass médias pour leur dire attention, mesdames, messieurs, vous utilisez un lexique, un vocabulaire qui est clairement discriminant et qui peut être même dangereux, clairement.
Oui, exactement. Décadrer, c'est une association en fait, qui est née d'un constat. C'était le constat que dans les médias, autour de nous, on a des représentations qui sont faussées, qui sont biaisées, des images qui sont biaisées. Et en fait, on a énormément d'inégalités. Et puis, le problème qu'on a, c'est que ces discours-là, en fait, vont simplement créer notre image du monde, créer notre connaissance du monde. Et si ces discours-là, finalement, sont déjà biaisés, comment peut-on créer une connaissance et une vision du monde ensuite qui ne l'est pas ? C'est pour ça qu'on a voulu travailler là-dedans. On travaille sur plusieurs sujets dans le domaine justement des représentations. Donc sur les images, sur la langue, sur la construction de l'actualité. Et là, ce cours de l'écriture inclusive finalement s'inscrit totalement dans ce travail de la langue, de la puissance des mots, de reconstruire et reconsidérer une langue aussi plus égalitaire.
Pourrais-tu nous donner quelques exemples pour que les personnes qui nous écoutent prennent la mesure de ce que ça peut vouloir dire que une représentation, voilà, que la manière dont dont les concepts se forment en utilisant des mots et de manière souvent, enfin, quand il s'agit de mots erronés ou inexacts.
Oui, totalement. Alors, d'abord, peut-être ce qu'on peut faire, c'est donner une définition claire de l'écriture inclusive. Oui. Et nous, la définition qu'on donne dans notre formation, c'est l'écriture inclusive, c'est l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques qui permettent d'assurer une égalité de représentation de tous les genres. Et à ce moment-là, effectivement, on a plusieurs paliers. Hein. Le premier palier, le premier exemple, c'est tous les noms d'occupation, tous les noms de fonctions, finalement, où toutes les noms de fonctions officielles, les fonctions qui sont valorisées, on a enlevé le féminin. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important de mettre finalement ces noms au féminin, de dire une autrice ou une auteure, de dire une avocate, une ministre, une mère, etc., etc. Ça, c'est le premier exemple assez concret qui est finalement pas si difficile à appliquer. Et puis ensuite, on peut passer de palier en palier et puis on va pouvoir trouver, par exemple, des pratiques qui vont, à l'aide de la ponctuation, ajouter du féminin. Hein. On met un point médian pour ajouter la terminaison féminine. Et puis, ou un tiret, etc. Il y a plein de possibilités.
On va juste préciser, le point médian, c'est le petit point qu'il y a au milieu de la lettre et qu'on forme au clavier avec contrôle et... Enfin, moi, je le fais avec le pavé numérique, du coup, il y a un code, mais... contrôle 250, ça donne le point médian. Mais non, c'est vrai qu'on ne trouve pas sur le clavier, sinon, je
oui,
crois.
Oui, effectivement. Alors,
mais bon,
par cœur,
c'est un
ça,
détail. C'est un
dire,
détail, ouais, ouais.
Mais...
Mais voilà, c'est juste pour préciser, voilà, le point médian c'est ça, donc pour pas que les gens se disent « Ah c'est quoi ce truc
oui. ?»
Si jamais il est formable avec le clavier CTRL et 250. Ok, alors où est-ce que l'on détecte... Je t'ai interrompu, tu allais continuer.
Non.
Comment, où détecte-t-on majoritairement ou le plus spectaculairement possible des écarts de langage qu'il faut corriger absolument ? Parce que effectivement, lorsque l'on déambule dans la rue, on est souvent un peu interloqué par alors, des affiches. Hein, y a même, on va citer les camarades du GLIP ici à Genève, hein, qui font des balades pour décrypter les méfaits de la publicité géante que l'on voit sur les murs avec des images dont tu imagines bien. Voilà. Et également les journaux, les manchettes des journaux, là on observe des fois des perles à l'envers, j'ai envie de dire.
Alors oui, moi je dirais en fait, pour répondre à ta question, on en trouve partout. C'est présent partout, mais effectivement, tu cites la publicité, les manchettes, à chaque fois finalement qu'on veut une langue forte, une langue créative qui va taper l'œil en fait, et bien là, on va jouer avec le langage et puis on va tomber facilement dans du sexisme et de la non-inclusivité. Mmh. Et là, c'est vrai que c'est flagrant. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, nous, dans notre formation, on fait vraiment attention à inclure ce type de pratique et à montrer que c'est pas parce qu'on fait de la communication ou qu'on fait de la publicité qu'on n'est pas, qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser l'écriture inclusive. Au contraire, finalement. Et on a des exemples, on fait des exercices avec les personnes pour vraiment qu'elles se rendent compte que c'est juste une autre manière de penser.
Alors, aurais-tu d'ores et déjà... On va vraiment revenir après à proprement parler sur l'atelier d'écriture inclusive, mais aurais-tu quelques conseils à livrer comme ça, à brûle-pourpoint ? Comment est-ce qu'on s'y attelle ? Comment est-ce qu'on commence à...
Une réalité, c'est que commencer comme ça, quand on n'a jamais entendu parler de l'écriture inclusive, c'est vrai que c'est assez difficile, simplement parce que l'écriture inclusive, aujourd'hui, elle est encore fluide, hein, elle n'est pas fixée, il y a plusieurs pratiques, il y a plusieurs écoles, et il faut les connaître. Bon, c'est vrai que quand on commence, qu'on se renseigne, il y a énormément de choses qui nous arrivent dessus, il faut savoir trier. Il faut faire ses choix aussi et puis se rendre compte que finalement c'est un choix qui est aussi personnel, c'est un choix aussi militant, c'est un choix aussi à travers sa pratique professionnelle qu'on va faire. Et puis il faut s'y tenir. Et ça c'est vraiment le conseil que je donnerais. C'est-à-dire que quand on choisit, par exemple, on parlait du point médian, quand on choisit d'utiliser le point médian, on utilise tout le temps le point médian. On l'utilise et puis on se met pas à utiliser tout à coup des tirets ou des... Il faut avoir une certaine homogénéité dans sa pratique.
Oui. Alors, à Décadrer, vous mettez le focus, me semble-t-il, mais tu vas peut-être me démentir, hein, sur les médias, leurs usages. Y a-t-il également des lieux comme qui seraient, pourquoi pas, potentiellement des nids de mésusages et qu'il faudrait transformer, comme par exemple les administrations ou les écoles? Voilà, y a-t-il des lieux un petit peu comme ça que vous avez décelés qui, selon vous, seraient des lieux un petit peu stratégiques à investir?
Alors, d'abord, je précise, c'est vrai qu'à Décadrer, on s'attelle principalement aux médias. Là, pour ce cours, on a ouvert un petit peu. On le fait en fait en collaboration avec une agence de communication qui, elle, a décelé aussi un besoin. Et donc, on s'ouvre à tous les métiers de la communication et puis aux métiers des ressources humaines aussi. Et puis, à tous les professionnels qui sont finalement intéressés à venir.
D'accord.
Effectivement, il y a énormément de lieux où l'écriture inclusive n'est pas encore courante. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Tu parlais des administrations, aussi des ressources humaines. Là, on a vraiment un combat pour que finalement, les femmes elles soient traitées dans le monde professionnel de la même façon que les hommes. On a l'inégalité salariale qui est encore très présente. Il faut comprendre aussi que ça aboutit aussi de tous ces manques de représentation, des faits aussi que les femmes elles se sentent pas assez concernées par exemple des offres d'embauche qui seraient écrites uniquement au masculin.
Bien sûr,
ouais. Et puis ensuite on arrive justement à des femmes qui ont des postes moins élevées que les hommes, mais parce qu'elles ne se sont pas senties légitimes et concernées. C'est aussi un travail. Les écoles aussi, ça, c'est un lieu qui me paraît extrêmement important. aujourd'hui, quand on parle d'écriture inclusive aux gens, on a un énorme défi, c'est-à-dire qu'on leur demande de désapprendre. On leur demande de désapprendre ce qu'ils ont appris à l'école quand on leur a appris la grammaire, l'orthographe, etc. Si on a un autre discours avec les enfants, qu'on introduit l'écriture inclusive dès le début, finalement ce défi, on passe outre et on simplifie. Il y a quelque chose que je trouve aussi très intéressant. J'ai découvert ça en préparant ce cours. En fait, aujourd'hui, on apprend la grammaire de manière sexiste. Parce que lorsqu'on apprend l'orthographe des mots, on apprend d'abord le masculin et ensuite on apprend à le féminiser. Pourquoi ? Mmh. Il n'y a aucune raison d'apprendre d'abord le masculin et ensuite d'apprendre à le féminiser. On pourrait très bien faire le contraire, ou finalement séparer les mots et puis les apprendre les deux comme des mots qui sont égaux et qui ne sont pas le dérivé de l'autre. Et là, on voit vraiment, en fait, comme la construction de la connaissance, elle va influencer sur notre perception du monde et ensuite sur notre comportement.
Ces usages-là sont-ils récents ou bien sont-ils présents de tout temps ? Je veux dire, dans la langue française, par exemple. Est-ce qu'on situe un moment où les choses ont pris ce pli-là, ou est-ce qu'en fait, pas tellement, ça fait longtemps que ces us et coutumes ont cours ?
Alors ça, c'est une très bonne question parce que justement, on voit que dans la langue française, il y a eu une évolution qui s'est faite. Il y a Eliane Viennot qui a écrit un livre que je peux te citer, il faut juste que je retrouve le titre, c'est « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », qui montre toute cette évolution historique. Et finalement, elle montre comment, à l'imprimerie, si tu veux, dès l'arrivée de l'imprimerie, la langue, on passe d'une langue orale à une langue écrite. Et la langue, elle va se stabiliser. Ça va entraîner des grands débats, finalement, pour la stabilisation de cette langue. Et petit à petit, dans ces débats, on enlève les femmes, on enlève les marques du féminin. J'ai plusieurs exemples qui sont assez choquants. Par exemple, on trouve des textes où on parlait de philosophesse. On trouve des textes où on parlait de vaincresse, des mots féminins d'occupation en S, ce qu'on ne retrouve plus du tout dans le français. Autrice, c'est un terme qui vient du XVIe siècle. C'est pas un terme qu'on a un jour comme ça, en claquant des doigts, inventé. Non, non. Ça vient du XVIe siècle. Et ensuite, il y a les hommes qui ont dit, mais non, les femmes, elles sont pas assez intelligentes pour écrire des choses, elles sont pas intelligentes pour penser, donc ces mots, finalement, hop, on les enlève. Au niveau aussi de tout ce qui est des accords, ce qui est extrêmement important quand on parle d'écriture inclusive, par exemple, cette règle du masculin l'emporte sur le féminin, longtemps, elle n'était pas claire. Il n'y avait pas de règle et on utilisait beaucoup l'accord de proximité. Accord qui est aujourd'hui, donc l'accord de proximité, je rappelle, c'est simplement on accorde l'adjectif ou le participe passé avec le dernier nom auquel il est en lien. Donc je peux donner un exemple, on dirait les spectateurs et spectatrices sont belles.
Tout à fait, parce que voilà, spectatrice est plus proche de l'adjectif qui suit.
Exactement, ouais.
Donc en plus, c'est vraiment pas compliqué.
Non, c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, si tu mets ça dans un texte, on va te dire que t'as fait une faute d'orthographe.
Ouais, complètement. Ouais. Dis-moi, langage inclusif, langage épicène, analogie et différence, est-ce qu'on peut dire les deux ? Dis-nous.
Alors, on peut dire les deux. C'est vrai que langage inclusif, nous, on a choisi de parler ça parce que ça englobe vraiment toutes les pratiques qu'on peut avoir. Épicène, c'est vraiment, en fait, c'est ce qui est neutre. Et par exemple, quand on parle d'écriture inclusive, nous, on parle des termes épicènes. Tous ces termes qui ont un genre grammatical, mais qui n'est pas lié aux personnes qu'ils représentent.
D'accord. Alors dis-moi, on l'a dit tout à l'heure, les médias sont parmi les lieux où vous allez pour justement expliquer ces choses-là. Comment est-ce que vous y êtes reçu justement ? Est-ce que les gens sont plutôt de plus en plus ouverts à cela et comprennent cette démarche ? Non seulement la comprennent, mais ils reconnaissent un réel intérêt ? Ou est-ce que là, il y a encore des ostracismes, il y a encore des doutes, il y a encore des résistances ?
Alors, je dirais que ça va de mieux en mieux. Je pense que au niveau des médias, c'est un grand débat. En fait, quand on parle d'écriture inclusive, on a extrêmement peur de rendre la lecture difficile. Ce n'est pas le cas. Il y a des études qui montrent que la lecture n'est pas plus lente lorsqu'on a un texte en écriture inclusive que lorsqu'on a un texte en écriture habituelle. Mmh. Mais les médias, ils ont extrêmement peur de ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué à amener. Mais petit à petit, on sent quand même des ouvertures. Au niveau du public, en général, c'est vrai que là aussi, on remarque qu'autant on a des personnes qui se questionnent, et autant on a des discours qui sont réfractaires, et puis on a des discours qui sont réfractaires dans les deux sens. Autant on nous dit « le masculin est inclusif, ça sert à rien, féminazie, etc. » Ah oui, oui. Autant des personnes qui vont lutter pour l'égalité vont nous dire « allez voir ailleurs, il y a des soucis plus importants à traiter aujourd'hui. » Et moi, à ces personnes-là, je leur réponds « oui, c'est vrai, on a un combat qui est énorme, mais si on ne travaille pas sur tous les pans, et si on ne travaille pas à la fois sur les inégalités de fait et à la fois sur les représentations, il y aura toujours des raisons pour avoir des inégalités de fait et puis on n'arrivera jamais à se dépatouiller de tout ça. Il faut travailler sur tous les pans et il faut en fait, finalement qu'on se soutienne tous et toutes pour arriver à combattre. Et du coup, c'est vrai que là, on est vraiment dans des réactions qui sont très diverses.
Ok. Dis-moi, existe-t-il une littérature ou des éditions des éditeurs ou des libraires ou pas qui justement mettent cela en avant, parce qu'on se rend compte qu'effectivement dans la construction de notre identité de genre, bien entendu, mais la construction en tant qu'humain en général, eh bien le langage est extrêmement important, et que voilà, cette question là inclurait le fait qu'il y aurait peut-être des contes qui soient écrits avec justement en écriture inclusive et qui permettraient aux enfants assez jeunes déjà de se former des représentations qui soient pas celles qui évidemment qui sont véhiculées par un langage sexiste.
Alors, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas y répondre simplement en faisant une liste. Ce que je sais, c'est qu'il y a en France un livre dans les écoles qui n'était pas un livre de grammaire ou d'orthographe, mais qui était plutôt un livre sur les sciences, je crois que c'est sciences du monde, enfin, c'est ce qui c'est biologie, sciences de l'environnement, histoire, etc., qui était écrit en écriture inclusive. Ça a fait un énorme débat. Mmh. Un énorme débat, et je ne sais pas ce qu'il est advenu, s'il a été réédité ou pas, mais on voit qu'il y a des initiatives comme ça qui existent effectivement.
D'accord. Alors dis-moi, justement, pour en revenir à Décadré, hein, votre association, est-ce que vous rencontrez des pères ailleurs également? Je veux dire, là on parle évidemment de la langue française, alors en avez-vous rencontré des personnes qui s'attellent un peu au même travail que vous, alors dans la région francophone de Suisse et en France, et également dans la région germanophone? Ou est-ce que je repars là, sous-jacent, est-ce l'écriture inclusive une préoccupation francophone, francophile, ou est-ce que ça dépasse tout ça?
Non, alors, l'écriture inclusive, en tout cas, à ma connaissance, c'est un débat qui dépasse le français.
Oui.
C'est vrai que le français est une langue particulièrement sexiste, et du coup, on a particulièrement de la difficulté à l'introduire. Mais en allemand, il y a aussi des démarches pour avoir une écriture inclusive. Nous, on a eu la chance d'aller au Palais fédéral, au bulletin officiel. Donc, c'est les personnes qui vont rédiger ensuite le compte-rendu des débats parlementaires. Et en fait, avant la session de printemps, on a été leur parler durant une heure et demie d'écriture inclusive. Et en fait, moi, j'étais chargée de faire le cours en français, pour le français, et puis une autre personne a fait ce travail aussi pour l'allemand. Et on voit qu'il y a des difficultés similaires, mais que la langue est aussi construite différemment, hein, et que du coup, ça ne peut pas se calquer. Mais la difficulté, elle est là et elle existe. Et je pense que c'est dans beaucoup de langues, c'est le cas.
Ouais. Et alors donc voilà, nous arrivons au moment où on va parler de l'actualité de Décadré, puisque voilà, le prochain événement, c'est ça, c'est l'atelier d'écriture inclusive. Alors date, lieu, tout ça pour commencer. Et ensuite à qui s'adresse-t-il, bien entendu.
Alors cet atelier, donc il aura lieu le 14 septembre. Il dure 3 heures, donc de 13h30 à 16h30, à l'espace Grenus voisin. C'est un atelier qu'on fait dans cet espace aussi parce qu'on a un partenariat où on touche les membres voisins. C'était une volonté de notre part de toucher justement ces jeunes en communication, ces jeunes entrepreneurs, hein, et puis de leur donner la possibilité de participer à cet atelier. Hein, donc c'est ouvert à tous et toutes professionnelles qui a envie dans sa pratique d'introduire une écriture inclusive. Et puis l'atelier ensuite il s'adapte aux personnes, il s'adapte vraiment aux personnes, aux questions.
D'accord. Et alors comment ça va se passer? Est-ce qu'on prend un texte non inclusif et puis on le transforme? Est-ce qu'on fait un peu comme le latin, on fait des versions, comment ça va se passer?
Alors,
les grandes lignes. Hein.
Ouais. L'atelier il est construit en trois parties. Il y a une première partie vraiment de présentation de ce que c'est l'écriture inclusive, de son histoire finalement et de l'importance. Mmh. Et puis ensuite, de toute la palette d'outils qui existent. Parce qu'on a dit, l'écriture inclusive, c'est une écriture qui est fluide. Hein. Et puis donc, on a une grande marge de liberté finalement dans son utilisation. Donc, nous, on a fait le choix, on présente toute la palette d'outils. Et ensuite, c'est à la personne finalement de choisir quelle forme d'écriture elle veut introduire. Ça, c'est la première partie. Et puis, dans la deuxième partie, finalement, on accompagne les gens dans ce choix à travers une discussion. Aussi, une analyse, quel type d'écriture est plus adapté à quelle pratique professionnelle, quels obstacles on rencontre, pourquoi, et puis on discute vraiment. Et là, dernière partie, on fait des exercices. Il y a des exercices très divers. On a un exercice où, au lieu justement de transformer un texte en écriture inclusive, on a demandé aux gens de repérer l'écriture inclusive dans un texte.
D'accord.
Et on voit que c'est pas si simple que ça finalement. Ouais. On a aussi effectivement une transformation où on demande aux gens de réécrire une publicité, une offre d'emploi en écriture inclusive. Et puis on a aussi des comparaisons. On donne deux textes et puis on essaye de les comparer, de regarder ce qui est bien, ce qui est moins bien. C'est aussi dans une optique que c'est pas parce qu'on se dit un jour je vais utiliser le point médian que la réflexion est terminée. C'est, comme je l'ai dit, on doit désapprendre et donc c'est pas si simple que ça. Et il y a des questions qui vont se poser. Et donc débattre aussi, montrer les difficultés. C'est une manière d'amener aussi les gens à prendre conscience et puis à trouver aussi des solutions ou des alternatives.
À ta connaissance, y a-t-il... Alors après, si des questions surgiraient parmi nous, puisque nous sommes en public, n'hésitez pas, hein, les micros sont ouverts. À ta connaissance, y a-t-il un quotidien, un grand quotidien ou pas, la presse écrite, qui utilise le langage inclusif d'ores et déjà? Parce qu'en fait, je m'aperçois moi-même, en écrivant, nous qui utilisons pour nos articles, de nos libellés des podcasts qui utilisons l'écriture inclusive, il me semble qu'à la lecture, j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans des quotidiens ici locaux l'utilisation du langage inclusif, non. De la langue inclusive.
Pour avoir un peu cherché, en tout cas moi je l'ai pas trouvé. Donc, s'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a connaissance d'un quotidien ou d'article, dites-le nous.
Ouais, ce serait intéressant.
Volontiers intéressant. Ouais. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a le temps qui laisse sur Internet, qu'il y a des articles du temps qui passent sur Internet en écriture inclusive.
Okay.
Alors, moi, j'en ai pas vu, mais j'imagine qu'ils laissent les rédacteurs et rédactrices le choix de le faire ou non.
D'accord. On pourrait dire que parmi les premiers réflexes que l'on peut facilement apprendre en langage inclusif, hein, moi je le dis parce que j'en suis un usager néophyte, eh bien, comme tu l'as dit, l'accord de proximité, c'est assez facile. Les suffixes, c'est assez facile de les adapter. Effectivement, les marques, les caractères également, avec notamment le point médian ou le point en bas ou le tiret. On peut dire que ce sont parmi les outils assez simples à facilement mettre en action, selon toi.
Alors, je mettrai un petit bémol sur l'accord de proximité. Parce que c'est vrai que l'accord de proximité, c'est simple à utiliser. Mais il ne se voit pas et malheureusement, on peut vite croire à une faute d'orthographe. Et quand vous avez des retours, quand vous faites l'effort d'écrire un texte en écriture inclusive et que vous avez des retours qui vous corrigent vos fautes d'orthographe, ça décourage facilement.
Ouais, c'est vrai.
Avec l'usage de la ponctuation, donc point médian, c'est beaucoup plus simple. Puis je dirais aussi simplement, voilà, les noms de fonctions, d'occupation, toujours au féminin.
Mmh.
Faire attention aux mots et aux expressions qu'on utilise. Hein, quand on dit un garçon manqué, quand on dit un chef de famille, toutes ces expressions finalement, en fait, se rendre compte qu'il y a un sens extrêmement sexiste derrière.
Mmh.
Et puis, ouais. Après, il y a aussi quand on veut alléger un texte et pas toujours avoir de la ponctuation, on peut simplement utiliser les termes épicènes comme le personnel, l'équipe ou les singuliers, les collectifs, donc les membres, etc. Donc il y a énormément de possibilités.
Et puis il suffit de voir ça non pas comme une contrainte mais comme un petit challenge dans la rédaction du texte, et franchement il est très facile même de s'en amuser, tu vois, de trouver des chouettes astuces qui disent ce qu'on voulait précisément dire en ayant justement cette attitude inclusive.
Oui, exactement. Et puis moi ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ça donne justement, enfin ça ouvre la créativité, et pour les métiers de la communication on peut en jouer. Moi j'ai vu une chouette affiche donc de promotion de l'écriture inclusive qui disait il faut les épingler point médian E. Et donc le point médian finalement simulait l'épingle.
Oui, bien sûr. Ah, c'est pas mal.
Et là, tu découvres que tu peux t'en amuser, qu'il y a énormément de choses à découvrir qui n'ont pas encore été découvertes. C'est un terrain, en fait, qu'on peut complètement s'approprier.
Absolument. Je voulais quand même signaler qu'en ludothèque, puisque c'est mon métier, on n'a quasi pas de jeux dont les règles sont au moins féminisées un petit peu. Quasiment pas. Et il se trouve que justement, les rares jeux qui commencent par « chère joueuse », eh bien, on les compte sur les doigts d'une main. Et que les gens, d'ailleurs, quand on leur fait lire ces règles-là, s'en étonnent. Et c'est particulièrement dommage parce qu'effectivement, là, on touche également à des jeunes, voire des très jeunes. Et c'est dommage, je trouve, d'en limiter les outils de compréhension, d'appréhension du monde. En tout cas, revenons-en juste aux ateliers parce qu'on n'en avait pas terminé. Donc, on avait dit que ce sera donc le 14 septembre. Comment est-ce qu'on peut s'y inscrire? Via le site internet, la page Facebook? Et cela a-t-il un coût?
Alors, j'ai tout là.
Ah, super.
Donc, l'inscription, le délai d'inscription est jusqu'au 5 septembre. Et puis, effectivement, l'atelier, il a le coût de 240 francs par personne. Pour l'inscription, il faut écrire simplement un mail à cours@donc-voilà.ch.
Ok. Jusqu'au 5 septembre.
Jusqu'au 5 septembre. Voilà. Et après, vous recevrez toutes les informations complémentaires.
D'accord. Et alors, comment ça se passe? Donc, on a dit qu'une matinée.
C'est une après-midi C'est une après-midi entière où on discute, on fait des exercices. Et puis c'est vraiment un cours, c'est collectif. Moi, je ne parle pas durant tout le cours, au contraire. On essaye vraiment finalement de construire ensemble. Le but, c'est que les personnes puissent partir du cours avec des connaissances sur l'écriture inclusive, mais aussi des outils pour directement le mettre en place.
D'accord, donc l'idée c'est d'être très concret quand même et à la sortie de cette journée-là, de pouvoir le lendemain s'embarquer dans l'écriture inclusive. Y aurait-il une suite, un épisode 2 de ce type d'atelier-là ou alors tout simplement leur reconduction dans le même format mais à d'autres dates pour les personnes qui à ce moment-là ne sont pas dans les parages?
Alors là, c'est déjà l'épisode 2, puisqu'il y a eu un premier atelier qui a eu lieu à Fribourg en juin. Un deuxième aura lieu normalement le 23 novembre, date à confirmer également à Fribourg. Et puis effectivement, on va le reconduire. L'année prochaine, il y aura sûrement un nouvel atelier qui va se dérouler à Genève. Mmh. On peut préciser aussi que s'il y a des personnes qui sont intéressées à introduire ça dans leurs entreprises ou bien dans leur milieu professionnel, on peut venir et faire un atelier spécifique pour une organisation. Mmh. Donc il y a plein de possibilités.
D'accord. On arrive doucement au terme de cet entretien. Si des questions surgissent, n'hésitez pas. Moi, j'ai encore une ou deux petites questions, si ça te va encore.
Ça me va très bien.
Alors voilà, je voulais déjà te demander s'il y avait encore de la place pour cet atelier-là ou si les gens devaient s'activer en urgence et puis s'inscrire rapidement. Ou est-ce que pour le moment, ça va encore?
Non, il y a encore de la place. On accueille jusqu'à une quinzaine de personnes. Et puis, de toute manière, si on observe que... il y a plus de personnes intéressées que de places, on essaiera de réorganiser un nouvel atelier rapidement pour ces personnes-là. Mais inscrivez-vous.
Oui, absolument. Non, l'idée, ce n'était pas du tout de dire prenez votre temps, mais c'était de dire est-ce que je peux le faire demain ou est-ce que là, vraiment, il faut... Comment est-il délivré ce cours-là? Et par qui l'est-il? Je veux dire, c'est une équipe ou c'est une personne qui quand même est là à expliquer? Et puis, bien entendu, on l'a compris. Répondre aux questions. Mais voilà, vous avez une équipe pédagogique que vous avez formée ou...
Non, alors c'est essentiellement moi qui donne cette formation. Je l'ai préparée, donc j'ai préparé la formation en faisant aussi beaucoup de recherches sur l'écriture inclusive durant ce printemps pour donner le premier cours en juin. Donc c'est essentiellement moi qui anime et qui donne. Et puis ensuite, c'est justement co-géré par cette agence de communication, donc voilà, à Fribourg, qui nous aide aussi pour toutes les questions de communication, les questions aussi administratives, d'inscription, etc.
Oui, bien, d'accord. Tu parlais tout à l'heure d'ateliers spécifiques qui seraient possibles dès lors que des personnes vous solliciteraient. De ton côté, de votre côté à décadrer, est-ce que vous-même, vous auriez envie, pourquoi pas plus loin, de solliciter justement des organisations, des institutions pour aller justement y faire des ateliers à destination d'une population, typiquement une population d'adolescents. Mm-hmm. Tu vois, j'imaginais un truc avec une maison de quartier où le langage est déjà un langage, est déjà le lieu de... comment dire, pas de confrontation, peut-être même oui de confrontation, mais en tout cas le lieu d'une revendication, typiquement le langage dit SMS, ou alors le langage dit plutôt slam, ou des choses comme ça. Voilà, est-ce que ce sont des zones hors du confort que dans lesquelles vous pourriez pourquoi pas aller?
Ah mais tout à fait, nous on pourrait effectivement, ça peut être même très intéressant de se confronter à des jeunes et puis d'arriver aussi justement avant dans cette période comme tu dis où le langage est encore en création, mmh. où on y réfléchit et puis de leur donner des outils et de leur finalement de leur expliquer aussi. Je trouverais ça aussi très intéressant. Alors c'est sans doute plus compliqué, mais je me souviens avoir parlé avec une amie qui donne des cours de français à des étrangers, que ça serait intéressant aussi de pouvoir amener l'écriture inclusive directement dans l'apprentissage de la langue pour ces personnes-là. Justement pour qu'elles n'aient pas besoin de désapprendre ce qu'on leur a appris dans des cours de français qu'ils ont pris en plus en étant adultes et donc où elles ont trimé pour apprendre cette langue. Et puis ensuite, on leur dit non, mais en fait, ça, c'est faux et puis ça, tu feras différemment parce que c'est pas bien et tout. Non, ça serait génial aussi qu'on puisse arriver. Alors, ça demande de la méthodologie, ça demande aussi une autre approche, mais qu'on puisse arriver à toucher ce type de population.
En tout cas, plein de de plein de jolis défis qui t'habitent, j'ai l'impression, et ça c'est plutôt intéressant aussi pour nous, parce que comme ça voudrait dire qu'on te solliciterait, on dira reviens nous parler de ça à la radio ces prochaines fois. Écoute, Valérie, je te remercie en tout cas beaucoup. Encore quelques mots, on va rappeler le site internet www.decadre.com. Il y a une page Facebook qui s'appelle Décadré tout simplement.
Exactement.
Aussi là on trouve toutes les informations concernant cet atelier et toutes vos activités qui sont nombreuses. Y a-t-il des choses que vous cherchez au sein de l'association, de nouveaux membres, un petit peu d'argent, voilà, qu'est-ce que en besoin, en quoi avez-vous besoin?
Alors, si on veut nous aider, je pense que la première chose à faire, c'est de devenir membre de l'association. Hein, la cotisation est de 20 francs minimum par année, et puis ensuite on peut donner plus si on a plus pour justement soutenir. Des dons aussi, effectivement. On peut nous soutenir également, on a fait maintenant un Tipeee.com où on peut donner 5 francs par mois, c'est le prix d'un café.
Ouais, hein. C'est rien du tout.
C'est rien du tout, et puis nous en fait ça nous aide beaucoup. Ça nous aide parce que les cadres rédigent aussi des articles, donc ça nous aide aussi à pouvoir rédiger ces articles, à pouvoir les corriger, à avoir du contenu finalement de qualité qu'on peut diffuser ensuite.
Très bien, je te remercie. Des questions qui surgissent sur nous? Non. Alors pour en terminer, Valérie, déjà, en te remerciant beaucoup d'être venue jusqu'à nous ici. Sympa, hein, le parc, franchement, on est bien quand même
non,
ici.
Ça
hein.
Va, ouais, ça.
Quelles seraient-elles les aspirations, celles qui t'habitent dans un monde qui serait idéal, ou en tout cas vers un monde idéal, dans un monde idéal vers lequel on irait? Voilà, toi, tes premiers souhaits comme ça, lesquels seraient-ils?
Ben, c'est une question un peu
oui.
C'est ouais, une ouais, question bah... un peu compliquée. Moi, j'aimerais bien, je pense que simplement moi j'aimerais bien me réveiller le matin et pas dès mon réveil être confrontée à du sexisme, des images, des paroles, ou dès que je sors de mon immeuble être confrontée à un espace public où les femmes sont pas les bienvenues, etc. Enfin, juste voir que le monde n'est pas si hostile que ça à mon réveil, je trouve que ça serait déjà bien. Et il y a énormément de choses à faire.
D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour cette conclusion qui n'en est une en forme d'espoir et puis d'ouverture, justement, tout de même. On va continuer, nous, à suivre, bien entendu, les activités des décadrés. Et puis, ben, on se tiendra au courant pour la suite des opérations. Merci encore à toi, Valérie.
Mais merci pour l'invitation.
Avec beaucoup de plaisir et à la prochaine.
À la prochaine.
Alors, petite pause musicale et ensuite, bien, ce sera la dernière partie de notre émission en compagnie de Vlad qui est venu finalement esselé, abandonné, hein, comme ça. Triste d'ailleurs, et qui va nous parler de Alternativa.
Libre à dire. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames et qui étête les corps.